Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Comme cela faisait longtemps qu'il n'avait pas cherché à écrire, son cerveau s'est détendu et reposé. Il cherche et se demande quelle est la chose la plus féminine qui soit pour pouvoir trouver un sujet d'histoire qui fait la différence dans la vie à part l'acte sexuel entre la femme et l'homme. Qu'est-ce qui est le plus féminin dans sa vie ? L'enfantement, être capable d'enfanter, c'est durant cette période qui la rend la plus féminine possible. Lorsqu'elle sait qu'elle est prête à enfanter, c'est là qu'elle se sent vraiment femme. Et lorsqu'elle s'aperçoit qu'elle ne le peut plus, elle doit se sentir moins féminine, moins femme. Et si une femme qui apprend qu'elle n'est plus féconde à cause de l'âge, en même temps tombe amoureuse d'un homme, elle doit se sentir sûrement plus gênée, car elle doit se dire que la féminité qu'elle aimerait donner à l'être aimé n'est pas entière. Donc, ce qui est le plus féminin à une femme, c'est ce qui fait la preuve qu'elle est une femme à part entière, en pouvant être féconde. Et cette preuve lui a porté à d'actes fixes régulières par ses menstruations. Et le jour où cela cesse, c'est la fin de sa pleine féminité. Bon, alors voyons, une femme peut se sentir moins femme à la fin de ses menstruations et avoir honte de désirer un homme encore à son âge. Voilà ce qui pourrait donner un bon sujet d'histoire. Tu prends un papier, réfléchis et écris. Une femme s'aperçoit qu'elle n'a plus ses menstruations. C'est une femme vive qui vit avec sa fille, qui est femme, mais qui vit avec sa mère malgré ses 25 ans. La mère apprend la fin de sa féminité avec tristesse. C'est sûrement dû à ce qu'elle ne l'a pas beaucoup utilisée, car vivant très tôt avec sa fille, elle est restée sérieuse sans aventure et n'a pas cherché à se remarier, peut-être à cause de sa fille. Et maintenant, elle s'aperçoit que l'âge est passé. L'âge de la femme, dans toute sa splendeur, est qu'elle entre dans un âge automnal où son corps va se flétrir et est déjà mort pour la procréation qui est pour elle le surhomme de la sexualité. Une partie de sa vie lui est définitivement fermée. Toutes ces années sont passées si vite qu'elle n'a pas vu le temps passer. Maintenant, il est trop tard, car elle le pense qu'il est trop tard. Elle regrette de ne pas avoir pu se servir pleinement de son corps comme sa jeunesse lui permettait. Et c'est fini. On ne peut plus retourner en arrière. Elle se dit qu'elle est trop vieille. Pourtant, malgré elle, elle se sent tout aussi fougueuse que dans sa jeunesse. Quelque temps après avoir constaté cela, sa fille fait la connaissance d'un bel officier. Elle le présente à sa mère. Elle le trouve bien, intelligent. Elle lui donne la permission de revenir voir sa fille. Elle l'invite aussi à dîner, etc. Le temps passe et petit à petit, elle s'aperçoit qu'elle aime l'ami de sa fille. Elle en a honte. Il est beaucoup trop jeune. Qu'elle pourrait être son fils. Il a 22 ans, elle en a 45. Et puis, elle se trouve laide et ne pourra jamais lui offrir ce qu'il désire, une femme, puisqu'elle n'en est plus une. Elle souffre beaucoup de ne plus. Elle souffre beaucoup et de trop penser à lui. Mais malgré elle, des gestes, des paroles. Le jeune homme s'aperçoit à cause de ses gestes et paroles. Et il est conquis. Il essaie de faire un pas en avant. Elle ne répond pas. Elle a honte. Se prend pour une folle. Le temps passe. Un jour, elle s'aperçoit avec joie que ses règles reviennent. Elle en est toute heureuse. Enfin, elle est redevenue femme. Croit à un miracle de l'amour. Puisqu'elle est entièrement femme, elle accepte les avances du jeune homme. Et le soir, où elle doit le rejoindre, elle se trouve dans un bain de sang. Impossible d'arrêter. Le médecin vient l'examiner. Elle a une grosseur maligne, trop tard, trop grosse, et elle meurt. Et voilà le résumé de l'histoire que je vais écrire. Et il est écrit durant 2 jours entiers. Une fois qu'il a eu fini d'écrire, cela lui a apporté une telle joie qu'il en a oublié l'opium. Le soir, il lit la nouvelle à sa sœur dans sa chambre. « Qu'est-ce que tu en penses ? C'est très beau, très beau. Tu as réussi à rendre cette chose très poétique. Donc, cette nouvelle, je peux la présenter. Elle est bien. » Au restaurant, il donne la nouvelle à Paul pour qu'il la lise chez lui. Le lendemain, au restaurant, Paul lui dit « Elle est très bien ta nouvelle. Je vais la faire éditer. Elle va énormément plaire à ces dames. Elles vont demander quel est cet auteur. Ça va t'ouvrir toutes les portes du Faubourg Saint-Germain. Faut continuer à écrire, mon petit. Le frère et la sœur sont fous de joie et Charles-André décide de continuer à écrire. Deux semaines plus tard, Paul leur montre la belle plaquette rose. Je l'ai fait imprimer à 250 exemplaires. Maintenant, je vais les envoyer et les présenter. C'est ce qu'il fait. Il envoie les plaquettes avec une petite lettre de présentation disant qu'un de ses amis a écrit cela et qu'il trouve très bien. Il l'envoie aux femmes mariées et pas aux jeunes filles ni aux hommes. Pour éviter de choquer à cause du sujet, il dit dans sa présentation que ce sujet très délicat a été traité d'une façon poétique et subtile. Et cela permet de le lire sans honte ni dégoût, et que les mères, si elles le souhaitent, elles peuvent permettre à leurs filles de le lire. Bien entendu, après l'avoir lu elles-mêmes, ces dames du monde qui ont reçu la brochure intriguées se sont mises de suite à la lire. Elles ont été émues et troublées. Ce dont parle le livre, c'est deux choses tellement intimes, et elles ont eu l'impression de se retrouver. Bien entendu, elles n'ont pas cru au nom de l'auteur, et ont pensé que c'était une femme qui l'avait écrit. Le livre passe de main en main, ces dames, au cours du thé, en parlent, et se le passent. Certains messieurs demandent ce que c'est, on leur dit.
« Mais ce n'est pas pour vous, cela, messieurs. »«
Mais de quoi cela parle-t-il donc ?»«
De choses dont on ne parle pas aux hommes. »
Certains hommes en cachette de leurs femmes le lisent et trouvent cette lecture malsaine pour les femmes. Ce n'est pas vraiment à cause des choses physiques, mais que l'on parle d'une femme d'un certain âge et veuve qui aime et donne rendez-vous à un jeune homme. Cela peut donner de mauvaises pensées. D'autres hommes sont choqués par le côté physique. C'est dégoûtant. La plupart des hommes qui ont lu la nouvelle en parlent à leurs femmes. C'est dégoûtant, immoral. Elles leur répondent en haussant les épaules.
Tu n'y connais rien, c'est très beau.
J'ai tant de torchons souillés de sang. Et d'immoralité.
Pour vraiment le comprendre, il faut être une femme.
Si j'apprends que tu agis comme cette femme, je te chasse.
Etc., etc.
Dans les salons, l'on parle plus que de ça. Les femmes se mêlent entre elles pour défendre l'œuvre. Les hommes sont furieux et disent qu'elles sont folles. Et qu'un vent d'immoralité et d'impudeur leur est tombé dessus. Dans les salons de thé, les magasins, c'est devenu le sujet à la mode. Les journaux aimeraient en parler, mais ils ont peur, car les patrons et les financiers sont des hommes.
Le frère et la sœur ne se rendent pas compte de ce qui se passe et continuent à vivre comme avant.
Il est vrai qu'ils vivent dans un autre monde différent, celui des parias. Paul sait qu'il le lui a dit, que l'argent commence à leur manquer et leur donne une petite pension.
C'est pour le loyer, mais je suis à la recherche d'un logement pour vous. Un écrivain de femme qui vit dans un endroit pareil, ce n'est pas très honnête. Aucune admiratrice n'osera venir vous voir ici. Je vais vous chercher un endroit correct. Un appartement qui fait pauvre, mais juste ce qu'il faut sans les offusquer. De la pauvreté pour femmes riches.
Deux semaines plus tard, il retrouve un petit appartement dans le quartier du Marais, dans un immeuble au fond d'une cour. Vieil immeuble, ancien de 3 étages. La cour est pavée, il y a un petit perron qui accède à l'entrée et qui est de bonne dimension avec de beaux escaliers de pierre. Paul leur a trouvé au 3e étage un petit 3 pièces cuisine. Couloir d'entrée. Les pièces sont de bonne taille. Lorsqu'au mur, boiserie au mur, cheminée, belle fenêtre, haute, parquet à la française. Il a fait meubler l'appartement avec des meubles de différentes époques, mais de bonne qualité. Faire en sorte à ce que l'appartement fasse un peu bohème, avec des tapis, des lampes de partout, plein de livres. Un désordre étudié, quoi. Lorsqu'il leur présente l'appartement, ils sont agréablement surpris. Enfin, ils sont sortis de leur misère. Paul leur dit,
« Cela vous plaît ?»
Apolline lui dit, « Oui, beaucoup. Mais comment allons-nous payer ?»«
C'est moi qui vais payer toutes vos dépenses. »
Charles-André lui demande, « En échange que de quoi ?»«
De ce que nous avons prévu. » Continuez à écrire et lorsque je vous le demanderai, vous viendrez avec moi à des soirées.
Apolline lui demande, et moi?
Vous tiendrez la maison de votre frère.
Paul va voir Mathilde de Saint-Auban qui habite boulevard Saint-Germain, un magnifique hôtel particulier Louis XV, avec cour intérieure, écurie, parc derrière la maison. Elle vit seule, aidée d'une gouvernante et d'une flanquée de domestiques mâles et femelles. Paul va sonner à la porte de l'hôtel. Un domestique lui a ouvert.
« Monsieur, je suis Paul Voller et j'aimerais parler à Madame Mathilde de Saint-Auban. Je vais voir si Madame peut vous recevoir, monsieur. »
Et il laisse Paul à l'entrée. Quelques minutes plus tard, il revient. « Madame veut bien vous recevoir. Si vous voulez me suivre, monsieur. » Il le fait entrer. Un grand escalier de marbre avec dessus, au milieu des marches, un tapis rouge. Au premier étage, il va le faire entrer au salon.
Entrez, monsieur. Il entre. Madame ne va pas tarder. Le domestique le laisse. C'est un salon Louis XV avec une tapisserie rose. Une autre porte est ouverte.
C'est une jeune femme, grande, mince, le visage de porcelaine, tout mignon, cheveux châtains en chignon, habillée d'une robe longue d'intérieur crevette. C'est le genre de femme qui reste avec un physique de petite fille. Elle s'approche de Paul.
« Bonjour, Paul. Je suis heureuse que vous veniez me voir. On ne vous voit plus. Méchant, va. »
« Vous pourriez me voir tous les jours si vous acceptiez de devenir ma femme. »«
Toujours aussi blagueur. Allons. Allons nous asseoir. »
Elle lui fait signe pour aller s'asseoir dans des fauteuils devant une table basse.
Elle lui demande « Alors, que devenez-vous ?»«
Toujours dans les affaires et l'écriture. J'ai justement un ami qui a écrit un petit quelque chose que je trouve très bien. Je voulais apporter. »
Il lui tend le petit livre rose.
« Qu'est-ce ?»«
Une petite nouvelle, très bien écrite, qui a un côté très féminin. L'auteur a su merveilleusement bien décrire le monde féminin. »
Elle lui dit « Je vois, avec une petite chose sur les fleurs, les odeurs, les tissus, tout ce que d'après l'homme entoure la femme. Car c'est un homme qui a écrit ça, non ? Et croit nous connaître. »
Il lui dit
« Ce n'est pas vraiment cela. »
Elle hausse les épaules et lui dit
« Les hommes croient nous connaître, mais vous savez que beaucoup de jeunes filles préfèrent les soldats de plomb aux poupées. »
Il lui dit
« Oui, mais là, c'est vraiment féminin. Et je crois que c'est la première fois que l'on décrit certaines choses de cette façon. Lisez-le. »
« Si vous le voulez. »
Il lui dit
« Tous les salons parisiens en parlent déjà. Et toutes ces dames en ont fait leur livre de chevet, malgré l'opposition des hommes. »
« Comment ? Déjà tout Paris l'a lu ?»
On a frappé à la porte.
« Entrez. »
Bonjour madame.
C'est une bonne avec le plateau pour le thé qu'elle va déposer sur la table basse. Et ressort.
Comme d'habitude, du lait sans sucre.
Elle se sert. Elle le serre et se serre.
Elle lui demande « Dites pourquoi je suis la dernière à avoir ce livre ?»«
Pour vous forcer à le lire. »«
Bien, je le lirai. Et alors ?»«
Si le livre vous plaît, vous voudrez connaître l'auteur. Et je veux que ce soit vous qui l'invitiez pour le lancer dans le monde. Comme cela tout Paris vous enviera et vous deviendrez la reine de Paris. »
Elle sourit. « Merci, c'est gentil. Je vois que vous êtes toujours amoureux de moi. »
« Oui, mais sans espoir. »
« Bien. Si vous permettez, je lirai votre livre. Vous reviendrez dans une semaine. Je lis très lentement. »
« Comme toutes les femmes du monde. »
Elle se lève.
Et lui dit « Si vous permettez, je suis obligé d'arrêter notre entretien. Ce soir, je reçois. » Il se lève. « Très bien. » Et elle le raccompagne.
Dans une semaine.
Oui, dans une semaine. Au revoir.
Au revoir.
Le frère et la sœur ont reçu l'ordre de mener une vie retirée dans leur appartement sans recevoir personne. Ils n'ont droit qu'à une pipe par semaine, mais la cuisinière fait de bons repas. Jean-André passe ses journées enfermées dans sa chambre à écrire. Il essaye de trouver un autre sujet et ce n'est pas facile. La sœur a décidé d'apprendre à chanter et va, avec la permission de Paul, à des cours de chant chez une vieille professeure, petite et maigre, toujours habillée de noir. Charles-André n'arrive pas à trouver un sujet. Cela l'énerve. Il aimerait tout laisser tomber. Le travail d'écrivain est dur, pénible et ne rapporte presque rien. On écrit juste pour se faire plaisir. Une semaine plus tard, Paul retourne chez Mathilde et lui dit « J'ai beaucoup aimé la nouvelle et je veux bien lancer votre homme. Menez-le-moi jeudi prochain à 21h pour qu'il se fasse un nom. »
« Il a déjà un nom, madame. Sa famille est de la très haute bourgeoisie lyonnaise. »«
Que veut-il de plus ? Il n'a pas besoin de moi. »«
Il veut se faire un prénom. » »«
Eh bien, menez-le-moi. » »«
Il vit avec sa sœur. » »«
Amenez-la aussi. » J'ai de la chance qu'il ait du talent, parce que je n'aime pas m'occuper d'une famille.
Pas une famille, juste le frère et la sœur.
Bien, alors à jeudi.
Paul va prévenir le frère et la sœur qui le reçoivent dans leur salon.
Voilà, ça y est, vous êtes invités par Mathilde, jeudi à 21h. Vous allez pouvoir faire votre entrée dans le monde.
Charles-André lui dit, nous y sommes nés.
Bien, eh bien, disons que vous allez y retourner.
Apolline lui demande, et que devons-nous faire?
Votre frère devra séduire Mathilde.
Charles-André lui dit, et si ça ne marche pas?
Les artifices vous y aideront. Vous l'habituerez à l'opium. Elle ne pourra plus vous dissocier à son plaisir. Elle sera à votre merci.
Apolline lui dit, vous voulez que mon frère agisse avec elle comme vous vous avez agi avec vous, avec nous?
Oui, donc il va falloir vous préparer pour la soirée. Je vous mènerai chez un tailleur pour un habit et vous une robe. Mais cela n'est pas important. Surtout, il faut penser à tout ce que vous allez leur dire. N'oubliez pas que vous êtes d'une famille riche lyonnaise, que vous avez tout quitté pour vivre votre art, que vous vivez à votre sort, pauvrement mais honnêtement. Vous gagnez votre vie en faisant quelques lettres d'affaires, donc du secrétariat, quoi. Mais votre but, c'est d'écrire des livres. En ce moment, vous êtes en train d'écrire quelque chose. Votre sœur est partie avec vous pour vous aider. Surtout, ne dites pas que vous voulez devenir comédienne. Cela est très mal vu dans le monde. Il y a des soupers, des soirées entre hommes pour ce genre de rencontres. Mais les femmes du monde ne se mélangent pas aux saltimbanques.
Apolline est furieuse. Qu'y a-t-il d'immoral à montrer sur les planches? Paul lui dit,
vous vous exhibez.
Pendant qu'il prépare la soirée, Mathilde en fait autant, en parle à tout le monde à ses thés.
Oui, j'invite le André-Charles Beaumardin. Une petite blonde lui demande, comment est-il?
Très bien.
J'arrive pas à croire que vous alliez plus l'inviter. Personne ne le connaît. Personne ne sait qui il est. Même certaines femmes pensaient que c'était une femme qui avait écrit cette nouvelle. Vous êtes la femme la plus enviée de Paris. Mon Dieu.
moment-là que vous appréciez.
La soirée est arrivée. 200 personnes seulement. Les invités ont été tirés sur le volet. Ça a créé des fâcheries. Les dames invitées n'ont pas dit à leurs messieurs qui étaient invités pour éviter les disputes. Et les quelques hommes qui le savent sont curieux de voir cet animal qui connaît si bien la femme. La soirée est bien pour présenter Charles-André, mais on ne le dit pas. Toutes les pièces du bas ont été ouvertes et comme cela se présente en enfilade, ça fait une fois les portes ouvertes, une immense pièce. On a enlevé une partie des meubles, laissé dans quelques endroits un coin salon. Un orchestre joue sur une estrade, un buffet avec des estrades. Les premiers invités sont venus vers les 21h, car toutes ces dames veulent parler seule à seule avec la maîtresse de maison. Malheureusement, madame n'était pas prête. Elle n'avait pas fini de se préparer. Elle ne descend des escaliers qu'à 22h30. Habillée d'une robe en soie blanche, très légère et simple, qui la rendait encore plus élégante, ses cheveux simplement en chignon. Un petit collier de pierre laissait tout. Dans sa simplicité, au milieu de toutes ces femmes parées de bijoux, de tissus, de riches dessins colorés, elle ressemble à un ange perdu dans un poulailler. Lorsque les autres la voient descendre les marches, elles accourent tout en bas. Elles, en bas des marches, elles se disent toute son amie, la plus chère, celle qui va recevoir les confidences. Une grosse femme lui demande « Comment est-il ? Va-t-il bientôt arriver ?» « Je n'en sais rien. » Et vous verrez bien de vous-même comment il est. Une petite avec une tête cheval lui demande « Oh, ma chère, vous me le présentez. Son livre m'a fait un tel effet que je n'en peux plus. Il faut absolument que je le voie. » Mathilde.
Tout ça, c'est fini. Il aime Kitty maintenant.
Comment nous avez-vous trouvé ? On a bien dansé ?
Leur dit, ne vous en faites pas.
Seulement si Alexei veut bien.
Mais je vous en prie.
Vous le verrez tous lorsqu'il va arriver.
Merci, mais je n'aime guère danser.
Il ne vient pas seul.
C'est un tort. La danse est pourtant un des rares plaisirs innocents.
Il est marié ? Non, ma chère, mais il a une petite sœur. Comme un garçon bien sage. Il en attend l'arrivée de Charles-André comme l'on peut.
Seulement quand je l'ai
puis, un valet de pied court vers Mathilde.
Vous ne sortez pas non plus à Saint-Pétersbourg.
Madame.
Pourquoi cette question ?
Parce que mon régiment y est.
Ils sont là. Bien, j'arrive. Elle va vers l'entrée. Un groupe de femmes intriguées la suit.
Si vous étiez ma femme, je vous exilerais.
Enfin, Charles, Apolline et Paul. Mathilde près d'eux. Elle le regarde bien. Elle le trouve très beau, avec des yeux frais, vieux, fiévreux. Sa joue très blanche, sa peau très blanche, on dirait le Christ. Elle leur dit, je suis très heureuse de vous recevoir chez moi. Paul s'avance et lui dit, madame, permettez-moi de vous présenter Charles-André. Enchanté, monsieur. J'ai lu votre nouvelle et j'ai beaucoup aimé. Merci, madame. Je suis très touchée. Mathilde va vers Apolline et lui dit, mademoiselle, vous êtes très jolie. Vous allez faire des conquêtes avec un tel sourire. Et cette robe en satin beige va très bien. Merci, madame. Puis elle dit à Paul, je vais présenter votre ami à mes invités. Faites, mon ami. Elle mène le frère et la sœur à des groupes de gens pour les présenter. Toutes ces dames sont excitées. et ces messieurs curieux. Mathilde prend le bras de Charles-André et la main d'Apolline et leur dit « Elles sont toutes jalouses de moi. Votre nouvelle a fait l'effet d'une bombe. On ne parle que de ça. C'est l'événement de la saison parisienne. » Après les avoir présentés à des amis, elle le mène au buffet boire du champagne. Elle demande à Charles-André, « Vous me faites danser ?»« Oui. » Et vont se mettre en position pour danser. Devant les invités qui les envient. Paul fait danser Apolline. Mathilde, tout en dansant, lui dit « Il faudra qu'on se revoie d'une façon plus intime pour faire plus connaissance. Je veux bien. Disons pour un thé chez moi demain à 15h. Cela vous va-t-il ? Oui, madame, je viendrai. Ça fait longtemps que vous êtes à Paris ? Non, quelques mois seulement. » Vous connaissez mon ami Paul depuis longtemps ? Non, j'ai connu. Par hasard, j'avais besoin de travail. J'ai appris qu'il cherchait une personne pour faire des lettres. Alors, j'ai été le voir et il m'a embauché. Puis, un jour, je lui ai dit que j'écrivais. Il a voulu lire une de mes nouvelles, l'a fait éditer, et voilà. Elle lui dit, et voilà, un vrai conte de fées. Je suis sûr que vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez eue d'être lancé si jeune comme ça. En dansant, il sent son parfum. Ses mains sur sa taille le font frémir. Ce visage tout près de lui qui semble parfois se donner à lui. Il n'ose pas baiser les yeux de peur de voir sa gorge. Il se dit qu'il est troublé par une femme. Et quelle femme ? Une Parisienne, une vraie. C'est-à-dire une femme qui sait mettre en valeur son corps, qui connaît la dernière mode, qui n'a pas froid aux yeux. Une femme riche, intelligente, célèbre, veuve, et puis qui a reçu l'ordre, lui, de la conquérir pour en devenir son mari. Ce n'est plus une corvée, c'est un privilège. Il a la tête qui tourne. Sa sœur, en les observant, devient jalouse. Elle se sent exclue de leur bonheur. La soirée se continue ainsi. Mathilde reste près de lui et continue à le présenter. On lui pose des questions sur sa nouvelle et comment lui, un homme, a-t-il pu faire pour entrer dans l'intimité des femmes. Je les ai bien observées, Mathilde lui demande. Il vous a beaucoup aimé ? Il répond, je ne sais pas, il m'en soucie plus. Pourquoi ? Vous n'aimez pas les femmes ? Je les adore, mais tant que je n'avais pas trouvé la femme de mes rêves, je m'en souciais. Je me souciais peu de ce qu'elles ressentaient à mon égard, mais je les ai observées sans le voile de l'amour, ce qui fait voir beaucoup de choses. Et à comprendre aussi. Et avec cela, j'ai pu écrire cette petite nouvelle. Et maintenant, vous avez trouvé la femme de vos rêves ? Oui.
Oh !
Oui, il y a peu de temps.
Elle t'attend dans la salle à manger.
Elle sourit.
Kitty, je vais la rejoindre. Puis-je te parler, Kitty ? Toi, demain, nous avions prévu de faire des tas de choses. Nous avions prévu de faire des tas de choses. Une autre fois, peut-être. Écoute, Dolly, je ne peux pas rester. J'ai gâché.
Après la soirée, dans son lit, elle ne pense qu'à lui. C'est la première fois après la mort de son mari qu'elle pense à un homme. Elle le trouve délicieux, bel homme. Il y a juste une chose un peu gênante. C'est son âge.
Bonjour mon ami, comment allez-vous ?
Oh, monsieur le docteur, ma jambe va beaucoup mieux, vous savez.
Le frère et la soeur, après la fête, s'en retournent accompagnés de Paul qui leur dit :
« Je suis très satisfait de vous. Elle a mordu à l'hameçon. Vous irez à son rendez-vous pour la séduire. Et dans quelques temps, vous serez son mari. »
Il les laisse en bas de leur immeuble. Apolline n'est pas contente de cette soirée. Rentrée chez eux, avant d'entrer dans leur chambre, elle lui dit : faudrait bien laisser tomber Paul et son complot. Rentrons à Lyon. Il lui dit : non, nous sommes trop près du but. Je suis célèbre et bientôt riche. Si l'on arrête, tout s'écroule. Elle lui répond : tu es célèbre à cause de ton livre et non parce qu'elle va t'aimer. Avant de te connaître, tu étais déjà célèbre. Quant à tu n'as qu'à recommencer à écrire. Si tu veux continuer à l'être. Si tu n'écris plus, même si tu es marié avec Mathilde, tu retomberas dans l'anonymat. Pas avec une femme comme elle. Fais attention, elle t'aime pour ton livre. Et si elle voit que tu n'écris plus, elle t'aimera moins. Maintenant que tu as acquéri la célébrité, nous n'avons plus besoin de Paul. Partons. Non, je ne peux pas. Et pourquoi ? C'est comme ça. Bonne nuit. Et il entre dans sa chambre. Il sait qu'il aime Mathilde. Et s'il se marie avec elle, ce n'est pas à cause de Paul. Pour ce qui est des 10% de la fortune de Mathilde, tant pis, il les donnera. Elle vaut bien cette somme. Et ses livres la remboursera. Le lendemain, en fin de matinée, le frère et la sœur se retrouvent au salon pour le petit déjeuner. Ils sont assis l'un en face de l'autre. Et lui dit : j'ai bien réfléchi. Je ne veux pas que tu revoies cette femme. Et pourquoi ? Parce que nous n'en avons pas besoin. Tu es devenu célèbre sans son aide, et maintenant, tu écris. Tes écrits vont te rapporter suffisamment pour vivre. Après avoir fini de tartiner son pain, il lui répond : il faudrait que je puisse continuer à écrire. Que mes écrits se plaisent autant que cette nouvelle. Elle hausse les épaules et lui dit : eh bien, tu n'as qu'à te remettre au travail. C'est pas si simple que ça. La création artistique ne se fait pas comme ça. Quand on le veut, malheureusement, ce n'est pas l'artiste qui commande l'idée d'une œuvre. Ça vient d'elle-même. et le créateur ne fait que ce qu'on lui commande. Lorsqu'on le crée, c'est comme si l'on était guidé par un double. On n'est plus le même. Elle arrête et lui dit, « Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu n'es plus capable d'écrire d'autres nouvelles comme celle-là ? » Je ne dis pas ça, mais l'inspiration, non. Et c'est pour cela que j'ai besoin de me marier avec une femme riche. Elle hausse les épaules et lui dit, « Pour te faire entretenir ? C'est dégradant. » Il lui dit, « Que faisons-nous en ce moment ? Ne sommes-nous pas entretenus par Paul ?» Eh bien, justement, arrêtons tout ça et retournons à Lyon. Il lui dit, « Et tu crois qu'à Lyon, nous pourrons continuer à avoir du succès dans une petite ville de province où quelques vieilles tiennent salon avec monsieur le curé ? Bien, restons à Paris alors, mais ne voyons plus ces gens. » Il lui répond, « Et nous irons retourner vivre dans un hôtel minable ?» Il pose sa serviette sur la table et se lève. Nous sommes presque au pied de la réussite. Ne gâchons pas notre chance. Et n'oublie pas, c'est qu'après c'est toi. Et il sort de la pièce. Elle se sent dans un étau qui la serre, la serre, la serre, la serre. À 15h, Charles-André sonne chez Mathilde. Un domestique lui a ouvert. « Monsieur, je suis Charles-André Bonmandin, j'ai rendez-vous avec madame. »«
Bien, monsieur, madame vous attend. Veuillez me suivre. »
Charles-André est entré et le domestique le mène au petit salon qui est au premier étage.
Entrez, monsieur. Et le domestique le laisse seul. Le salon est celui où a été reçu Paul. Charles-André regarde autour de lui. Il voit sur une commode une petite montre ancienne, en or et écaille. Il la prend pour mieux la regarder. La porte s'ouvre.
Ce qu'il fait sursauter, et sans réfléchir, il met la montre dans sa poche. C'est elle. Elle porte une robe beige, s'avance vers lui avec un sourire figé et lui dit
« Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre, mais j'avais une amie et j'arrivais pas à la faire partir. Asseyez-vous. »
Elle le fait asseoir où Paul était assis et s'assoit à la même place.
Elle lui dit, « Que voulez-vous ? Ces dames sont curieuses et elles ont dû la désigner pour aller aux nouvelles. Comment allez-vous depuis hier au soir ?» Il lui dit, « Très bien, sauf que j'étais très ému à cause de votre invitation. »«
Mais c'est ridicule ! Pourquoi ému ? »
être invité par une femme comme vous, aussi jolie. Elle baisse les yeux et lui dit « Vous exagérez, je ne suis pas grand-chose, et vous êtes d'une grande famille, très connue. » Pas autant que la vôtre. Elle l'arrête et lui dit « En tout cas, entre gens du monde, l'on ne risque rien. Paris est plein d'aventuriers. On ne sait pas très bien à qui l'on a affaire. Et du jour au lendemain, l'on risque de se trouver dévalisé par une personne que l'on recevait en toute innocence. » Il ne se souvient pas de son acte et se dit que la conversation est mal partie, qu'elle doit être dans ses mauvais jours. Elle sourit et lui dit « Vont servir le thé. » Elle appuie sur une sonnette qui est sur la table basse. On a frappé. « Entrez !»
C'est la bonne. « Apportez-nous le thé, s'il vous plaît. Bien, madame. »
Mathilde se détend et lui demande « Vous comptez rester définitivement à Paris ?»« Je ne sais pas, mais je crois que je pourrais rester à Paris. »« Vous êtes en train d'écrire en ce moment ?»« Je cherche, mais vous savez, l'inspiration ne vient que lorsqu'elle veut. » Elle lui dit « Pas d'idée d'histoire, alors ?»« Entrez !»«
C'est la bonne. »
C'est la bonne qui va déposer le plateau à thé sur la table basse.
Elle sort de la pièce.
Elle lui dit « Vous devriez écrire une histoire de vol. » « Oui, de vol. » Puis elle sert. Du sucre, du lait, citron, 2 doigts de lait. Merci. Une fois qu'elle est servie, elle dit « Oui, une histoire de vol. Cela nous changera un peu de ces histoires d'amour. » Il y aura au moins du mouvement. Vous ne trouvez pas que la vie est ennuyeuse? Moi, oui, je rêve d'aventure. Si le lecteur avait à lire ma vie, qu'est-ce qui pourrait s'ennuyer? Alors, mettez-nous un peu de piment dans nos vies. Tâcherai, madame. Il se demande comment il pourra faire pour séduire une femme qui bouillonne de vie et ne rêve que d'aventure. Elle le trouve un peu penaud et triste. Elle a pitié de lui. Elle le trouve joli garçon. Pauvre petit chou. Elle sourit et lui demande « Êtes-vous vraiment le fils Beaumandin ? Parce que cela n'a aucune importance, vous savez. Si vous n'étiez pas, vous êtes si joli garçon. » Il lui dit outré.
Radio Canouse a présenté dans la série Les Candeurs radiophoniques un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la 13e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.